franceinter.fr.
Là, je l'ai là.
Bonjour. C'est l'un des joyaux paysagers et touristiques de la France. Il est inscrit depuis 1996 au patrimoine de l'humanité établi par l'UNESCO. Mais aujourd'hui, sa parure est en danger. Interception vous propose ce matin une balade le long du canal du Midi. Cette voie navigable a été conçue au XVIIe siècle. Elle chemine entre les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sur une distance de 240 km. Elle est bordée par 42 000 platanes. Les plus anciens ont deux siècles d'existence. Ils formaient jusqu'à présent une voûte végétale unique en son genre. Mais le canal se déplume. En 2006, on y a découvert un parasite, le chancre coloré. Un parasite tellement virulent qu'il met en péril l'ensemble des platanes du canal. Et au-delà, ce sont peut-être tous les platanes de France qui sont menacés. Pour tenter de contenir l'extension du mal, un immense chantier est en cours. C'est un chantier radical puisqu'il s'agit d'abattre non seulement les arbres malades, mais aussi tous ceux qui les entourent. Déjà, sur plusieurs tronçons du canal, on peut découvrir ces saignées qui laissent les berges chauves. Comme le mildiou ou le phylloxéra en leur temps, le chancre coloré est un défi de la nature et personne ne peut prévoir l'issue de la bataille. Les platanes qu'on abat, c'est un reportage de Corinne Cutilla, prise de son Marie Le Peintre et Laurent Lucas.
Interception, le magazine de la rédaction.
C'est aussi sportif,
les écluses, sûrement
le temps. Vous avez des bras musclés.
Oui, 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 mais c'était pas pareil en début de saison.
C'est joli.
C'est joli. Les éclusiers sont sympas. Et voilà.
Les éclusières, oui, c'est agréable.
Non, non.
Et la dégradation du paysage, vous l'avez remarqué ou pas?
Ah, mais c'est surtout les platanes. Ouais. Là, c'est le problème, malheureusement. Là, parce que là, maintenant, quand il n'y a plus les arbres, on s'aperçoit qu'il fait chaud sur le canal.
Il y a des berges qui s'effondrent.
Il y a des berges, malheureusement, ouais. Il y a un peu de détérioration des berges à quelques endroits. Ouais. Donc, il va falloir essayer d'y remédier, d'y faire attention à tout ça. Mais bon, c'est sûr que c'est pas facile.
Vous avez vu des platanes coupées aussi?
Oui.
Ah oui, beaucoup, oui. En remontant la surface, pas mal. Ouais.
C'est triste,
oui, parce que c'était la... Ce qui faisait le charme du canal du Midi, justement, je pense. Ces voûtes que ça faisait, que ça formait, là, avec ces platanes.
Ça reviendra, mais pas pour nous.
Mais oui, voilà.
Malheureusement,
nous, maintenant, on ne verra plus.
Pour les jeunes.
Vous descendez de plus en plus. Là, vous allez bientôt passer avec votre bateau. Enfin, vous êtes le troisième, quand même, dans le BF. Hein.
Ah, oui. Et on a semé nos amis, mais on nous rattrape. On s'éloigne, on s'éloigne. C'est amusant.
Bon voyage.
Merci.
C'est l'écluse la plus étroite du canal du Midi, l'écluse Saint-Martin. En pleine saison, elle ouvre et referme ses portes plus de 40 fois par jour pour laisser passer les bateaux de promenade. Nous sommes à Blomac, dans l'Aude, en pays minervois. Ici, le canal glisse au milieu des vignes et en cette fin d'été, la campagne est écrasée sous le soleil. Les bateliers cherchent l'ombre, mais à cet endroit, les platanes ne se reflètent plus dans l'eau. Des dizaines manquent à l'appel. Malades, condamnés, ils ont été abattus. Sur le chemin de halage, nous suivons deux chercheurs de champignons un peu particuliers. Marie-Paul Junier et Francis Mer sont phytopathologistes. Ils étudient les maladies des végétaux. Depuis 6 ans, ils arpentent les berges du canal à pied, parfois en barque ou même en quad, pour repérer puis immatriculer les platanes malades.
Il va y avoir une trouée, je ne sais où, avec des platanes. Donc, c'est emporté, hein.
Allons voir ce platane malade, allons voir ce chancre.
Il nous a dit, les lagueurs qu'on a rencontrés lundi. Moi, on me dit d'aller au chancre et je vais au chancre. Alors, avant, on taguait les arbres. Ouais. On ne taguait pas, mais on les marquait.
On marquait les arbres.
Oui, on marquait les arbres. Alors, les croix, c'était les périmètres de sécurité. Les arbres qu'il fallait abattre en amont et en aval pour que le foyer ne s'étende pas.
Parce qu'un arbre malade, on le coupe et on coupe aussi les arbres autour.
50 ouais. mètres de part et d'autre.
50 mètres, ça représente quand même pas mal d'arbres.
C'est pour stopper la continuité racinaire. Pour essayer de stopper la continuité, parce que le champignon passe d'arbre en arbre par les racines une fois qu'il est installé. Et donc pour essayer de couper cette continuité racinaire, ben on sacrifie des arbres qui sont encore...
Qui sont sains.
Enfin, apparemment sains, on va dire.
Apparemment sains, oui. Ouais.
Donc on sacrifie un certain nombre d'arbres sur 50 mètres. Et c'est là que ça fait polémique, parce qu'il y a des élus qui ne veulent pas qu'on abatte les arbres...
Apparemment sains. Par exemple, celui-là... Vous allez voir, en aval, il n'y avait pas d'arbre à voir, mais de l'autre côté, vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de la couronne, on voit bien que cet arbre, il a moins de feuilles, des feuilles qui sont plus petites, jaunes. Il y a bien quelque chose qui se passe quand même.
Celui-là, il est certainement malade.
Oui. Voilà. Alors pour en être sûr, maintenant, on va aller le gratouiller sous l'écorce pour voir en fait si sous l'écorce, on a des tissus nécrosés.
Et là, il y a un foyer de... Un énorme trou, ils font brûler tous les arbres qu'ils ont coupés. Il y a un projet alors qui est encore à l'étude de valorisation du bois chancré pour faire de la plaquette et pour faire brûler ça dans des centrales thermiques pour faire de l'électricité.
On ne peut pas en faire du bois de chauffage ?
Non, parce qu'en fait, du bois de chauffage, ça veut dire qu'on va répandre la maladie un peu partout, quoi. Alors qu'il faut que ça soit vraiment confiné
ouais.
Que ça soit dans des centrales où le bois n'est pas réparti. Quoi.
Donc on le brûle ?
Pour l'instant, on le brûle.
Et on désinfecte les camions ?
Les camions sont désinfectés, ils désinfectent les sciures lorsqu'il y a des sciures au sol, ils mettent des bâches pour essayer de récupérer un maximum de sciures. Les conditions de travail ne sont pas faciles et ils font quand même le maximum pour éviter de dépendre, d'éparpiller des contaminants. Quoi.
Vous en avez détecté beaucoup ou est-ce que c'est vraiment au hasard, enfin un par-ci par-là ?
Ah non, c'est en recrudescence et puis on a surtout beaucoup de foyers qui s'étendent à l'heure actuelle. Les anciens foyers, il y a un an, qui s'étendent, on va dire, 3-4 arbres en amont ou en aval. Hein.
Et pourquoi ça s'étend ? Ça s'étend vite ?
Ça s'étend assez rapidement. Alors il y a deux choses. Il y a l'extension du foyer proprement parlé, c'est-à-dire qu'on a une maladie qui se transmet d'arbre en arbre par les soudures racinaires, donc ça s'étend assez vite. Alors, en général, c'est plutôt 2-3 arbres.
Par les racines.
Par les racines, oui. Et après, il y a un autre facteur, c'est que les bateaux qui cherchent de l'ombre, une fois qu'on a des arbres qui sont atteints de chancre, ces arbres ne fournissent plus d'ombre aux bateaux. Donc les bateaux se décalent et ils viennent blesser des racines d'arbres un petit peu en amont, en aval, en fait. C'est en fait la façon de fréquenter les berges du canal qui fait qu'en fait, on va avoir de nouveaux foyers.
Ce sont les bateaux donc, qui propageraient la maladie. C'est un peu cruel de le dire comme ça.
Ce sont les bateaux qui propagent la maladie. Ça, on en est sûr. Hein. C'est au niveau de la... Il y a deux choses. Il y a la porte d'entrée, on va dire, dans un bief sain, par exemple, ce sont les bateaux. Le champignon se retrouve dans l'eau du canal. Et en fait, c'est une maladie de blessure, donc il faut qu'il y ait blessure pour qu'il y ait infection. Et quand les bateaux viennent s'amarrer près des arbres, ils viennent blesser les racines et permettent en fait l'infection, l'installation du champignon.
Vous parleriez de pandémie,
oui.
Véritablement
oui. Oui, oui. Je pense que dans la partie qui a été, dans laquelle on a plutôt trouvé le foyer tout à fait au départ, hein, vers Ville-d'Hubert, de Ville-d'Hubert jusqu'à l'étang de Thau, c'est une catastrophe. Hein, ouais. Là, on va essayer de dégager l'écorce. et voir si les tissus sous l'écorce sont...
Ça, c'est de l'alcool pour désinfecter l'outil, la bouge qui va permettre de gratter et de soulever l'écorce.
Ça s'est passé dans les pays ici. Ça, c'est profond.
Là, je l'ai là. Ce côté-là, il est là. Ouais. Donc on voit sous l'écorce, les tissus ont colonisé par le champignon, ont pris une teinte brun chocolat, qui est assez caractéristique. Et si on s'approche, normalement, ça sent la banane.
C'est vrai en plus. Ça dépend des gens. Hein. Moi, je ne sens pas la banane, mais bon...
C'est comme ça. Hein.
Donc après, on relève sur un petit carnet le numéro de l'arme. Le P19-497 qui est chancreux, et on regarde l'état physiologique aussi.
Ça fait quoi,
l'intensité du dépérissement qu'on note. Donc 3, c'est qu'il est entièrement sec, 2, moyennement dépérissant, et 1, début de dépérissement. Là, on va dire que c'est quoi ? 2 ?
2, hein ?
Voilà. Ce qui permet aux voies navigables de France de savoir s'il faut intervenir rapidement pour le couper ou pas, parce que s'il est entièrement sec, il faut mieux l'abattre rapidement pour pas qu'il y ait des problèmes avec de tenue mécanique, surtout avec les usagers. Et il peut tomber, oui.
Oui, au bout de quelques années, il y a d'autres champignons qui viennent coloniser l'arbre, des champignons dits linivores, c'est-à-dire qui dégradent le bois, et qui peuvent provoquer des ruptures de branches et tomber. Et ces branches peuvent tomber sur le canal. Quoi. Je m'appelle Francis Maire, je suis arboriste conseil et je suis basé dans le Vaucluse à Gargas à côté d'Apt, dans le Luberon. Et donc je connais pas mal la maladie du chancre coloré du platane puisqu'elle est partie du sud-est, plus précisément de Marseille.
Expliquez-nous pourquoi justement.
Alors pourquoi elle est partie de Marseille ? En fait, cette maladie nous est arrivée des États-Unis. Avec des caisses de munitions qui ont été débarquées lors de la Seconde Guerre mondiale.
Vers 45 à peu près.
Voilà, 1945. Et des caisses ont été enterrées dans le parc Borély, à Marseille. Elles ont été enterrées au pied de platane et la maladie est partie de là, quoi.
Et ce chancre ne s'attaque qu'au platane.
Voilà, c'est un champignon spécifique au platane, quoi. À toutes les espèces de platane. Il y a 6 espèces de platane et il s'attaque à toutes les espèces.
Et il tue très rapidement un arbre ?
Alors c'est assez rapide, pour un champignon, un organisme microscopique, c'est assez rapide puisqu'en l'espace de 2-3 ans, ça vous sèche un arbre. Ça va très très vite sur le canal, il y a 42 000 platanes, on est pratiquement sûr qu'ils vont tous y passer. Il y a peu d'espoir, il faut dire ce qui est.
Les 42 000 platanes sont condamnés, selon vous ?
À la vitesse où ça va, on trouve chaque année, on trouve une centaine de foyers nouveaux à peu près, en moyenne. L'espérance de maintien des platanes sur le canal du Midi est très très réduite.
Jacques Noisette, directeur de la communication de VNF, Voies navigables de France. La mission de VNF, c'est la gestion du canal. Et la gestion du canal aujourd'hui, elle doit être un peu compliquée, non ?
Alors effectivement, VNF, c'est un établissement public national qui gère 6700 km de voies d'eau en France. Et sur ce réseau, qui est composé de divers ouvrages de gabarits différents, on a bien sûr le canal du Midi. Donc il y a des particularités, hein, le fait d'être un canal très ancien, puisque sans être le premier, il a été construit au XVIIe siècle, et que c'est en même temps un ouvrage de navigation et un véritable patrimoine, d'ailleurs reconnu au niveau mondial, puisqu'il a été classé en 1996 à l'UNESCO.
Aujourd'hui, il est en souffrance, on va dire que le canal est malade. Est-ce que vous êtes le médecin de ce canal ?
Alors, le canal, c'est pas le canal qui est malade, ce sont ses plantations. Et donc, le phénomène devant lequel on est confronté, ce fantastique défi, c'est que la maladie continue à progresser, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que d'abattre, de brûler sur place et de replanter les arbres qui sont malades ou morts, Et donc, sur, à la fois à l'échelle du temps, à l'échelle de l'ouvrage et à l'échelle des 42 000 arbres qui sont au bord du canal, c'est un véritable défi.
Ça veut dire qu'il n'existe pas de vaccin pour soigner ces arbres?
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Il faut être très clair là-dessus, il n'y a pas de vaccin pour lutter contre la maladie. Il y a aujourd'hui deux initiatives qui nous semblent intéressantes. Une première qui consiste à injecter un produit qui va limiter la propagation de la maladie. On n'est pas dans une logique de soigner des arbres malades ou morts. La deuxième alternative, c'est un groupe de chercheurs toulousains qui est en train de travailler sur une expérimentation à partir de bactériologie.
C'est-à-dire qu'il faut aller maintenant très très vite. Les arbres sont abattus, les recherches, les expériences sont en train de se faire. On ne sait pas qui va gagner cette course finalement.
Vous savez, on n'est pas à une échelle du temps normale. On est sur des arbres. J'ai toujours, on ne remplace pas un arbre centenaire du jour au lendemain. C'est-à-dire que les arbres que l'on plante aujourd'hui, il est probable que moi je ne les verrai pas. Donc progressivement, nos générations vont assister progressivement à cette mutation lente, je dirais, du canal, avec des sections qui sont encore saines, des sections où les arbres sont malades, des sections où les arbres sont coupés, et puis heureusement des sections où les arbres sont replantés. Et comme on les replante déjà d'une certaine hauteur, ben ça donne déjà beaucoup d'espoir d'imaginer le canal de demain. L'objectif, c'est vraiment de recréer ce patrimoine exceptionnel de façon à le transmettre aux générations futures.
Alors ici, nous sommes sur une berge du canal du Midi, tout près du village de Somaille, un tout petit village. Ici, il y a déjà une dizaine de platanes qui ont été abattus et brûlés sur place. Il en reste encore une trentaine à tronçonner. Il y a une dizaine d'hommes qui travaillent environ sur ce chantier, mais en tout, ils sont près de 60 sur les différentes zones infectées par le chancre coloré. Après l'abattage, donc, les souches restent sur place, elles sont traitées, et dans une dizaine de jours, elles seront arrachées et puis brûlées elles aussi. Adam Stivala, gilet fluo et casque vissé sur la tête, dirige les travaux d'abattage. C'est le chef de chantier. Il travaille pour la société SMDA, Soins modernes des arbres. Pour lui, ce chantier-là, c'est le chantier du siècle. Comment est-ce qu'on pratique cette opération avec ces grosses machines? Qu'est-ce qu'on on voit pas des hommes avec des tronçonneuses? C'est beaucoup plus sophistiqué que ça, quand
voilà.
même.
Voilà. Alors, en fait, la spécificité large au niveau du canal du Midi, c'est qu'on est sur un ouvrage complètement artificiel, mais qui a énormément de difficultés. Donc rien n'est linéaire en fait sur le canal du Midi, c'est pour ça qu'on a besoin d'autant de machines spécifiques qui viennent de partout en France. Les machines que vous voyez ici viennent de l'est de la France. On a d'autres dispositifs plus fluviaux aussi, on fait de l'abattage depuis la voie d'eau. On a aussi l'abattage de manière standard avec des bûcherons qui viennent couper à la base, ce qui est limité compte tenu aussi de l'aspect prophylactique. On a des besoins en termes de désinfection, puisqu'on est sur une maladie qui est un champignon microscopique, donc il nous impose un confinement de chantier aussi. Et la réduction au maximum de tout ce qui est sûr et déchets d'abattage, qui sont eux incinérés à proximité.
Alors ça se déroule comment?
Alors là, on a une machine qui démonte ce qu'on appelle le houppier. Donc elle va démonter les branches principales qui partent du tronc pour être incinérées. Et après, le tronc sera abattu de manière standard.
Et le camion qui a transporté tout ça, enfin tout
Alors le camion, tous les engins qui sortent du chantier doivent être désinfectés suivant un protocole spécifique. Et bâcher aussi lorsqu'on utilise un itinéraire routier.
Vous en avez abattu combien là, depuis que vous avez commencé le chantier?
Début de la session, pas loin des 150 depuis le 25 août. Ça fait à peu près une quinzaine par jour.
D'accord. Donc ces arbres-là sont bien répertoriés,
tout à fait. Donc ces arbres sont repérés, sont géolocalisés par satellite. Donc ils ont une pastille avec un numéro. Donc nous, on nous donne les numéros à abattre. Donc ici, on abat uniquement par rapport à la sécurité publique, donc on abat uniquement ce qui est sec, de manière à éliminer le danger par rapport à aux usagers de la voie d'eau, que ce soit terrestre ou fluvial.
Et vous, personnellement, de couper ces arbres au bord du canal du Midi, ça vous fait quelque chose ou
alors,
vous restez juste dans votre mission?
Non, justement, on ne reste pas dans notre mission, puisque notre mission à l'heure actuelle est de contenir cette maladie. On n'est pas là juste pour abattre des arbres secs, puisque vous voyez, l'image que vous avez des arbres secs, c'est une chose, Le citoyen comprend qu'ils sont malades. Nous, on comprend aussi que si on ne fait pas notre travail, demain, c'est le reste des platanes sur le canal du Midi qui présente un risque, et aussi les platanes de bord de route, etc. On vient ici pour combattre cette maladie, et non pas pour abattre des arbres. C'est là la nuance, et c'est l'engagement que toutes nos équipes ont.
Est-ce que vous avez eu des directives de l'UNESCO pour ce chantier ?
Alors, des directives de l'UNESCO, non. Par contre, dans notre cahier des charges, effectivement, il a été bien noté qu'on était sur un patrimoine de l'UNESCO. Nous, c'est une vitrine tout d'abord, mais c'est aussi beaucoup de contraintes puisqu'on est observé de tous. Donc, ce qui nous impose, comme normalement, d'avoir une image irréprochable. Mais le moindre défaut ou imperfection est vu immédiatement, quoi. Et compte tenu de la dimension du canal, on ne peut pas se permettre. Et c'est pour ça qu'on a aussi un niveau d'encadrement qui est beaucoup plus élevé que sur d'autres chantiers. Moi, j'ai tendance à comparer ce chantier un peu comme une armée. On est environ 60 personnes sur ce chantier, donc sur les 200 km de canal, avec pas loin d'une dizaine de personnes qui encadrent le chantier à différents niveaux.
Qui viennent vous voir quand même, qui vous engueulent
ouais. Bah moi j'ai un agent la dernière session qui s'est fait agresser, qui a été hospitalisé. Et là, la semaine dernière, il y en a un qui a enjambé la barrière, qui a voulu. Enfin moi je me suis interposé, mais il voulait mettre un coup à mon équipe, quoi. Enfin à l'agent qui l'a intercepté.
Je crois que là.
Pelouse, la moto on va se mettre par là parce qu'avec le vent, à mon avis, on risque de prendre des tisons ici.
D'accord. Les branches vont partir dans le feu. On va contourner par là.
200 millions d'euros, c'est le coût de ce chantier de restauration du patrimoine végétal du canal du Midi. Un projet financé à un tiers par les collectivités locales, un tiers par l'État et VNF, Voies navigables de France, et un tiers par le mécénat. Nous sommes à Carcassonne, dans les couloirs de l'hôtel du département de l'Aude, pour rencontrer le président du Conseil général, André Viola. Après avoir contesté la part de financement réservée aux collectivités locales, il a dû revoir sa copie et accepter le montage financier. Il y allait de l'avenir du patrimoine de son département, l'Aude, qui vit essentiellement grâce au tourisme.
Au-delà de l'impact économique pour le département de l'Aude, les retombées économiques, touristiques, il y a vraiment un attachement très fort des Audois au canal du Midi. Si vous demandiez à des petits Audois de vous dessiner l'Aude, ils vous feraient la cité de Carcassonne et le canal du Midi.
Exactement.
Et ils feraient un trait bleu. Et c'est d'ailleurs nos deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, moi j'habite dans une commune qui est sur le canal du Midi. Bon, c'est la balade du dimanche, on voit les platanes en arrière-fond de la commune. Et s'il n'y avait plus ça, c'est une partie de notre identité qui disparaîtrait. Puis, voilà, on a un devoir par rapport à ce qui nous a été légué, à ce chef-d'œuvre de l'histoire. Peut-être que notre génération sera la génération qui verra à un moment donné le canal du Midi sans arbres. Mais pour les générations futures, il faut qu'on s'implique à fond, même si peut-être nous, on ne verra pas. On ne reverra pas le canal du Midi comme on le voit encore aujourd'hui. C'est à nous de prendre ce projet à bras le corps.
Si demain, il n'y a plus de platanes sur le canal du Midi, pourquoi est-ce qu'on irait y faire du vélo, du bateau et y déjeuner ? C'est le danger, ça.
Tout à fait. On commence quand même à voir, il faut faire attention, parce qu'on commence à voir sur Internet des commentaires de touristes qui viennent et qui disent « Ah, ben là, sur cette partie, c'est abattu, commence à plus y avoir d'arbres. »
En gros, c'est pas la peine d'y aller.
Et par Internet, ça peut dire « Mais est-ce qu'il reste des arbres ? Il n'y a plus rien. » Or, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc, on a cette ambition-là aussi, en plus de participer au sauvetage, abattage et replantation, au sauvetage du canal du Midi. On a aussi l'ambition de développer encore plus une économie touristique autour de ce canal du Midi. C'est pas rien pour ces collectivités de s'investir dans ce dossier. La population adhère parce qu'il y a cet attachement, je dirais, viscéral, sentimental, mais au bout d'un moment, on dit, mais vous nous faites payer par nos impôts, mais on ne voit rien se replanter, c'est abattu et puis on ne voit rien derrière. Je constate aujourd'hui que les essences qu'on nous a imposées, y en a une grosse partie qui vient de l'Iran, c'est sous embargo, et l'autre de la Turquie, et on n'arrive pas à avoir suffisamment de plans pour faire face à la demande, aux besoins, parce qu'au-delà de l'implication du département financièrement, nous avons fait le choix aussi de mettre nos pépinières à disposition pour donc que les semis soient plantés au moins sur notre territoire, parce que il y a un point d'interrogation aujourd'hui. Est-ce que ces essences seront adaptées à notre climat ? On est en train de faire les tests dans nos pépinières. Aujourd'hui, on a 1000 plants, en gros. On s'est engagé sur 12 000 plants, sur les 40 000 qu'il va falloir au total pour replanter. On voit, bon, ça marche apparemment, ça prend. On va voir quand le transfert sera fait au bord du canal du Midi, comment ça va réagir et... J'espère de tout cœur que les scientifiques ne se seront pas plantés.
Construit entre 1667 et 1681, le canal du Midi est l'œuvre de Pierre-Paul Riquet, un homme ambitieux, riche, calculateur. Sa biographie n'est pas très connue, alors pour en savoir un peu plus sur cet homme et ses ambitions, il faut pousser la porte de la librairie du Somail. Le Somail est un hameau de 400 habitants, traversé par le canal du Midi, et la librairie est une ancienne cave qui aujourd'hui sert d'écrin à plus de 50 000 livres anciens. La maîtresse des lieux s'appelle Nelly Gourgue.
Pierre-Paul Riquet a mis tout son argent et quand il est mort, il n'avait plus rien. Voilà.
Il n'était pas très jeune, enfin on mourait jeune à l'époque,
oui,
hein, quand il a commencé à avoir cette idée de construction du canal,
oui,
c'était pas un jeune ingénieur.
Non, c'était pas un. Alors il n'était pas du tout ingénieur,
lui
c'était un commerçant qui aimait farouchement, on va dire, sa région. Hein, et il a pris l'idée du canal à un ami, il a repris cette idée de rejoindre
la Méditerranée.
À la Méditerranée,
ouais,
voilà. Et il a commencé les travaux. Il a demandé d'abord au roi l'autorisation. Il a demandé des fonds. Vu que tout n'arrivait pas très vite, il a lui-même investi...
Son propre argent.
Son propre argent, oui.
Dans la construction du canal.
Voilà.
Donc sa première idée, c'est de faire un trait d'union entre l'Atlantique et la Méditerranée pour le transport de marchandises,
en fait,
pour gagner du temps.
Tout à fait, oui.
Donc
oui.
Là, on n'a pas de platane, on fait juste une voie d'eau et on laisse passer les bateaux. C'était ça, sa première idée.
C'est ça, oui. Alors, lui, son souci premier, c'était comment amener l'eau, d'où l'importance des ingénieurs, qui ont créé ces fameux bassins plus haut dans la Montagne Noire, hein, bassin Saint-Ferréol et bassin du Lampi. Sans ces bassins, ils n'auraient pas pu obtenir toute l'eau disponible. Il n'y avait pas assez d'eau, si vous voulez.
Alors la plus belle partie, celle qui justement risque d'être sérieusement endommagée,
c'est la vôtre, je pense.
C'est
hein.
La vôtre,
ah,
c'est
oui.
Entre Carcassonne, Castelnaudary, jusqu'à
oui,
Narbonne.
Jusqu'à Béziers.
Jusqu'à Béziers même.
Jusqu'à Béziers, je pense, oui. Jusqu'aux écluses de Fonsorane.
Oui.
Voilà. Hein.
Les sept écluses
de
Fonsorane.
Voilà. C'est vrai qu'on est, parmi les plus beaux paysages, là, hein. les plus beaux bâtiments aussi.
Et Riquet, c'était quoi ? C'était un doudingue ? C'était un grand rêveur ? Ou c'était un acharné du travail ou...
Il ne voulait pas forcément qu'on se souvienne de lui. Il voulait faire quelque chose pour son pays.
Ah bah tiens, regarde, là, il y a un truc intéressant.
Sauvons le canal du Midi.
Et voilà.
Ah ouais. Ouais. Je ne les connais pas bien, mais c'est pas mal ce qu'ils font. Et puis, surtout, ils sont en péniche. Donc, ils vivent au quotidien le problème du canal. Et ils ont eu une initiative qui est intéressante. Ils ont numéroté les platanes. Les gens, en achetant leur carte, obtiennent un numéro et ont des nouvelles sur Internet. Hein, ça se passe, tout ça. Ils ont des nouvelles de leur platane.
Voilà. À voir s'il sera abattu ou
voilà,
s'il n'est pas
voilà,
malade.
Voilà,
voilà.
Voilà.
On peut imaginer votre commerce sans platane, là, devant le...
Ça sera terrible, le jour où il n'y aura plus un seul platane, là, devant. J'imagine même pas, enfin, c'est vraiment, c'est inimaginable. Pour nous, le canal, la beauté du canal, dans son ensemble, ce sont les arbres. Il y a aussi, évidemment, les monuments, les doubles ponts, enfin, toute cette architecture, mais pas seulement, hein. Vous voyez bien sur toutes les cartes postales, ce qui fait la beauté d'une carte, c'est la verdure.
C'est une, la fin d'une histoire. C'est une...
Alors, moi, j'espère pas que ce soit la fin d'une histoire, parce que il faut tout mettre en œuvre pour que ce canal résiste et dure dans le temps. Il faut trouver des solutions, et ça assez rapidement.
Et vous avez peur de quoi? Que les touristes partent, parce qu'il y a pas mal de commerçants quand même. Il y a des restaurants ici, il y a vous. Il y a...
Alors, bon, nous, on a quand même la chance au Somail que ça reste populaire, que ça reste agréable, même si demain, on nous enlève les quelques platanes qui restent, hein, parce qu'ils en ont enlevé tout autour. Hein.
Mais vous en avez vu tomber déjà?
Ah ben, plus qu'un. Donc on a des solutions, nous les autochtones, les commerçants, nous avons des solutions. Mais il ne faut pas s'arrêter au seul Somail. Voilà, moi ce qui me fait peur, c'est le touriste qui veut faire le canal, qui loue un bateau. Où est-ce qu'il va trouver de la fraîcheur si on ne lui en propose plus?
Dans le petit hameau du Somail, 20 platanes ont été abattus. Devant l'office du tourisme, 2 arbres ont disparu. Et cette vue, désormais dégagée sur le canal, ne console pas Marjolaine, c'est elle qui accueille et conseille les touristes.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. C'est un petit peu calme en ce moment, mais des fois c'est un petit peu par vague. On reste une demi-heure sans voir personne et tout d'un coup il y a 5 ou 10 personnes dans l'office.
Ils ne sont pas affolés par la chaleur régnante?
Ils viennent se mettre à l'abri ici.
Ça arrive, bien sûr.
Ça arrive.
Alors qui sont ces gens qui viennent vous voir justement? Qui sont ces touristes?
Alors nous, étant donné le canal, nous importe vraiment des touristes de manière complètement différente, c'est-à-dire qu'il y a les bateaux, il y a les vélos, il y a les chevaux, il y a à pied, enfin vraiment de toutes les manières et de tous les horizons.
C'est du tourisme vert, quoi.
C'est du tourisme vert et aussi de tous les horizons, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de bouger du Somail pour faire quasiment le tour du monde. Les bateaux, on a beaucoup de Sud-Africains, Néo-Zélandais, Australiens, Américains, et aussi beaucoup de régions d'Europe, bien sûr. Et puis, de temps en temps, ben, on a des gens qui viennent de l'Argentine, du Venezuela, d'Israël. Enfin, vraiment, on fait le tour du monde, quoi.
On est au centre du monde, en fait.
Oui, hein. Le Somail, c'est un peu le centre du monde.
Exactement. Alors, parlons de ce canal que vous aimez tant, que vous connaissez depuis que vous êtes née ici.
Pas du tout. Je suis quelqu'un qui a choisi de vivre ici parce que je suis tombée amoureuse de la région. Et du canal aussi.
Qu'est-ce qui vous plaît sur ce canal?
Ben, ce qui me plaît avant tout, c'est l'aventure de Riquet. C'est l'histoire de cet homme qui commence à construire ce canal, il a 58 ans. Bon, on est quand même au XVIIe siècle, c'est quand même un âge un peu canonique. C'est un monsieur qui est un notable, qui a vraiment pas besoin de se mettre dans cette galère, parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est respectable, et le pauvre vieux, bah, il va finir par en mourir de son canal. Et je pense que c'est l'aventure de l'homme qui m'a d'abord attirée vers le canal. Et ensuite, c'est quand même un ouvrage d'art qui est relativement extraordinaire, et donc, ouais, je l'aime.
Et alors aujourd'hui, vous êtes un peu triste, parce que le canal est malade, on va dire.
Alors, on est un peu triste parce que le canal est malade. C'est vrai que ces platanes, ça nous fait un petit peu mal au cœur quand on imagine ce que le canal était il y a encore 5-6 ans où il y avait cette voûte de verdure. Et là, par endroit, on n'a plus rien ni d'un côté ni de l'autre. Ça fait un peu mal au cœur. Moi, j'ai tendance à me dire que ces platanes-là, c'est pas la première plantation. Donc, ce n'est pas la première fois qu'à un moment, on a abattu ou arraché et replanté. Donc, on peut considérer que c'est dans la continuité de la vie du canal. C'est vrai que là, c'est un petit peu impressionnant parce qu'a priori, c'est tous les platanes qui vont y passer. Mais je me dis que c'est, enfin, ça s'est déjà produit. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que le canal ne va plus exister. Il va souffrir sûrement pendant un certain temps. J'espère que du reste, Voies Navigables de France va replanter assez vite pour qu'on n'ait pas trop à attendre. Mais voilà, c'est une étape. C'est pas quelque chose qui va faire mourir le canal, c'est pas possible.
Est-ce que les touristes vous parlent de cette maladie?
Oui. Malheureusement, de plus en plus, puisqu'ils assistent aux abattages. Voie Navigable de France a fait quand même une grosse campagne, donc on a des petits dépliants qui nous expliquent pourquoi ils abattent et qui nous expliquent pourquoi ils vont replanter. Mais c'est vrai que les gens, ils sont malgré tout sensibles, et puis on ne peut pas passer à côté. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des endroits où il y a bah, plus rien, quoi. Bonjour.
Bonjour. En fait, mon question est d'où à où le canal du Midi ?
De Toulouse à Agde, 240 km.
Mais vous de avez... Toulouse, après, on peut rejoindre la campagne.
Oui, mais alors là, c'est beaucoup plus récent. C'est un canal qui a été fait au 19e siècle.
Trouver un vaccin, un traitement pour enfin ranger les tronçonneuses, un défi que tentent de relever 11 étudiants toulousains. Leur coordinateur, c'est le chercheur Gilles Truand. Nous le rencontrons à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse.
Voilà, vous arrivez dans une des salles où les étudiants ont manipulé tout l'été. Donc voilà les étudiants qui travaillent sur le chancre du platane.
D'accord.
Voilà. Alors je vous décris un peu. Bon, il y a plusieurs salles. Hein, ça, ce sont donc des salles de travaux pratiques. Ici, c'est des salles d'expérimentation classiques. On a une salle d'expérimentation de biologie moléculaire. Et tout au fond, là-bas, des salles où on fait la culture, à la fois des bactéries et des champignons, sur lesquels on veut espérer trouver un moyen de tuer le champignon. Alors l'idée qu'ils ont eue, c'est que le champignon, il faut l'approcher de trois manières. C'est-à-dire que quand il est dans l'arbre, il faut qu'on arrive au champignon, qu'on se colle dessus et ensuite on le tue.
Mais il est microscopique ce champignon.
Le champignon est microscopique et l'outil biologique qu'on utilise est encore plus petit que le champignon.
D'accord.
Voilà. Un champignon, il faut donc s'imaginer, c'est quelque chose qui rentre dans l'arbre à l'endroit où il peut y avoir une blessure. Je pense que vous avez vu les abattages. Hein. Vous
oui.
avez peut-être vu l'endroit où
J'ai vu les flammes sur le tronc, j'ai vu les couleurs, l'odeur de banane.
Voilà. Donc, une fois qu'il est à l'intérieur, c'est très difficile de lutter contre ce champignon et les moyens de lutte biologique pour l'instant sont pas très très adaptés et même difficiles. La difficulté, c'est que on pourrait très bien essayer de cibler que l'arbre qui est touché, parce que ça va être difficile effectivement de lutter contre ça, parce qu'une fois que l'infection a démarré, c'est très difficile de la contrer. Par contre, on peut imaginer quand même lutter contre le chancre, contre sa dissémination sur les arbres sains, c'est-à-dire finalement avoir un moyen de lutte qui soit là, qui soit prêt, et qui, dès qu'il y a une infection, vienne sur le lieu de l'infection, se colle à l'endroit de l'infection et tue l'infection naissante.
Mmh. Voilà. Donc là, ça ressemble effectivement plus à un vaccin.
Ça ressemble plus à un vaccin. Alors, la différence, c'est qu'un vaccin, en termes biologiques, normalement, c'est que vous avez été déjà... On vous soumet à quelque chose qui vous immunise. Alors, ce n'est pas une immunité non plus, mais c'est un moyen de lutte. Et le moyen de lutte, donc, est que la bactérie qui va être injectée dans l'arbre va nager vers le champignon. Donc, on lui a donné un module qui va lui permettre de sentir où est le champignon et de se déplacer vers ce champignon. Une fois qu'elle a atteint le champignon, au lieu de continuer à bouger dans l'arbre, elle va se fixer sur le champignon et rester collée dessus et produire à ce moment-là les trois... Donc on a pensé à une trithérapie, hein, comme pour le sida, faire sortir trois antifongiques différents qui vont tuer le champignon sur le lieu où la bactérie s'est mise.
Ça veut dire qu'on s'attaquerait plutôt à des arbres de catégorie 1 ou 2, c'est-à-dire un peu atteints, puisqu'il faut quand même que le champignon soit dessus, donc ce n'est pas l'arbre complètement sain.
Ce n'est pas une obligation. La bactérie vivra un cycle dans l'arbre. Il est prévu que, par exemple, on injecte au moment où la sève remonte, au printemps, et que la bactérie qui est dedans se développe dans l'arbre, reste tout l'été jusqu'à l'automne, et au moment où la sève redescend et où l'arbre rentre en dormance, la bactérie meurt.
Et comment on injecte ça à l'arbre ?
Ça, on n'a pas encore fait.
Oui,
ça va être une partie difficile. Hein. Non, de toute façon, c'est
le
début du projet.
Par le
non, ça sera au niveau du tronc. Ça sera au niveau du tronc et ça se fera au niveau des canaux de sève de l'arbre directement.
D'accord.
Mais on n'est pas prévu d'injecter une très grosse quantité puisque, théoriquement, la bactérie va se développer dans l'arbre. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, c'est les moyens qu'elle se développe. Et qu'une fois qu'elle est développée, ben, elle reste dans l'arbre un temps qui correspond à une année, et qu'à la fin de cette année, elle meurt. Et donc, si on veut retraiter l'arbre l'année suivante, il faut recommencer le traitement. Mais c'est un traitement qui coûte infiniment moins que le traitement par antifongique. Donc l'idée pour l'instant, c'est de vérifier que ces trois petits modules, donc l'attirance, si vous voulez, la fixation et le tuer le champignon, sont valides. Voilà. Donc pour l'instant, la fixation, c'est sûr, ça on a prouvé, donc ça a été mis en place, les expériences sont faites et on voit qu'effectivement la bactérie est capable de se fixer sur une des molécules du champignon, donc ça il n'y a pas de souci. Et ils sont en train pour l'instant de réaliser donc le fait d'essayer de tuer le champignon. On voit un petit effet pour l'instant, mais il faut mieux le caractériser pour avoir une preuve vraiment grosse que ce qui est introduit dans la bactérie arrive à tuer le champignon. Et ensuite, la nage vers le champignon, ça c'est une des parties qui est très difficile parce que techniquement, c'est très difficile de faire nager des bactéries dans un environnement compliqué. Donc voilà, donc on analyse ces trois parties-là. Quand ces trois parties-là sont réalisées, ça veut dire qu'indépendamment, les modules fonctionnent et que maintenant, ce qui reste à faire, c'est à implémenter les trois modules ensemble, bien sûr, et ensuite, et éventuellement, à faire des tests à plus grande échelle.
Puis il faut aller vite, parce qu'on voit bien que le champignon, lui, il va très vite.
Voilà, hein. Donc le champignon, lui, va très très vite. Les sommes dépensées pour l'abattage sont, comme vous l'avez vu, énormes. Et en plus, bon, ben, l'abattage, je pense que vous avez vu la désolation que ça crée autour du canal. Donc c'est quelque chose de terrible.
Dans ce que vous dites, ça veut dire qu'on n'arrivera pas, vous n'arriverez pas à temps pour sauver les arbres.
Si, je pense que ben, dans 3 ans, on peut avoir des premiers traitements.
Dans quelques jours, les étudiants toulousains et Gilles Trouillant présenteront leurs travaux à Boston, aux États-Unis.
Avec mon ami, on en parle souvent le soir quand tous les bruits se taisent. Il ne reste plus que ce petit bruit du vent dans les feuilles. Et à ce moment-là, on se dit, écoute bien, parce que ce bruit-là, il est sacré. Et est-ce que tu te rends compte qu'un jour, il n'existera plus ce petit bruit du vent dans les feuilles? Voilà, ça, c'est pour nous, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Pour compléter ce reportage, nous retrouvons à Montpellier l'un des grands spécialistes mondiaux du monde végétal, Francis Allais. Francis Allais, vous êtes botaniste et vous avez tout récemment dirigé un ouvrage collectif « Aux origines des plantes ». Vous êtes aussi l'un des initiateurs de cette expérience scientifique tout à fait extraordinaire, le radeau des cimes. C'est un dispositif gonflable posé sur la canopée en forêt tropicale qui permet aux chercheurs d'étudier le milieu non pas du sol, mais du sommet de la forêt. Alors Francis Allais, même si votre spécialité c'est la forêt tropicale, quel regard portez-vous sur le sort de ces dizaines de milliers de platanes qui contribuent à la réputation du canal du Midi ?
Écoutez, ils sont malades, ça c'est clair, c'est un fait. Et donc, comme on ne sait pas les guérir, il faut les abattre. Je ne vois pas d'autre solution. Mais la condition du succès dans la replantation, c'est la biodiversité. Nos ancêtres ont été bien maladroits en ne mettant que des platanes le long de ce canal. Il aurait fallu intercaler des platanes avec d'autres essences. Regardez, dans la nature, vous n'avez pas comme ça de population avec une seule espèce de plante ou une seule essence d'arbre. Et c'est le mélange, c'est la diversité qui les met à l'abri des maladies. On me dit qu'il y a maintenant un platanor qui est résistant aux chancres colorés. Très bien. Mais si on plante uniquement des platanors le long du canal du Midi, dans 150 ou 200 ans, il va apparaître une autre maladie et ces platanes-là ne seront pas résistants à une autre maladie. Voilà, la solution, c'est la diversité. D'ailleurs, c'est vrai dans tous les domaines de l'existence.
Elle est envisagée d'ailleurs, on y fait mention dans le reportage. C'est quelque chose qui vous rassure un petit peu, le fait que justement on ait tiré les leçons de la situation actuelle ?
Eh bien, ça me rassurera encore plus quand je l'aurai vu.
Alors, l'ensemble de vos recherches, Francis Allais, met en lumière une vérité que vous tentez d'imposer, et Dieu sait que ça n'est pas facile, c'est que l'animal et le végétal sont en fait le fruit d'évolutions distinctes, Et lorsque l'homme se considère comme le stade ultime de cette évolution des espèces en général, vous le considérez un petit peu comme un escroc. Parmi les méthodes que l'on tente d'appliquer, on a entendu des jeunes chercheurs de Toulouse qui sont à la recherche de ce qui pourrait être un vaccin. Est-ce que cette notion de vaccin, ça n'est pas un signe de cet anthropomorphisme que vous reprochez à l'humain, finalement, de vouloir appliquer à l'espèce végétale des remèdes qui marchent sur sa propre espèce?
Eh bien, écoutez, je souhaite vraiment bonne chance à ces jeunes chercheurs. Je n'ai pas d'idée sur les vaccins végétaux, ce n'est pas du tout mon métier, mais s'ils réussissent, bravo. Nous verrons, je n'ai même pas de prédiction à formuler. Je trouve ça très intéressant de toute façon. Non, j'y vois pas d'anthropomorphisme. Vous savez, il y a énormément de choses qui rapprochent les plantes et les animaux. En fait, ce qui les rapproche, c'est beaucoup plus important que ce qui les sépare. Donc, pourquoi pas essayer un vaccin ?
Alors, ce qui les sépare, et c'est une notion que vous mettez en valeur aussi dans vos recherches, c'est cette notion d'immortalité qui peut s'appliquer à l'arbre, au végétal en général, et qui ne s'applique évidemment pas à l'humain. Est-ce que le voisinage aujourd'hui constant entre le végétal et l'humain, vous êtes le premier à reconnaître que les forêts primaires, par exemple, sont en train de disparaître, est-ce que ce voisinage obligé entre l'humain et le végétal ne met pas en cause cette possible immortalité du végétal ?
Non, excusez-moi, je voudrais faire tout de même une remarque. Les plantes ne sont pas immortelles. Nous avons quelques exemples, mais tout à fait minoritaires. Quelques-uns dans les herbes et pas mal dans les arbres qui sont potentiellement immortels. Mais on est très très loin de pouvoir considérer ça comme une généralité.
Alors est-ce que cette proximité obligatoire avec l'humain aujourd'hui ne remet pas en cause, y compris cette notion de longévité du végétal ?
Non, je crois pas. Les espèces potentiellement immortelles vont le rester. On peut en trouver en France de magnifiques exemples. Il y a des arbres, par exemple, qui manifestent clairement leur immortalité. Attendez, un mot de commentaire tout de même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne meurent pas. Et c'est extrêmement facile de les tuer. N'importe quel idiot est capable de ça. Mais ce que ça veut dire, immortalité potentielle, c'est que si vous les maintenez dans des conditions parfaites, dans tous les domaines, eh bien, ils ne mourront pas. Voilà. Ils manifesteront leur immortalité sans aucun complexe.
Ces conditions parfaites, elles ne sont pas réunies, bien sûr, autour du canal du Midi. Et là c'est un phénomène que vous soulignez. C'est l'intervention humaine, finalement, qui...
Oui, c'est ça. C'est le choix d'une espèce unique pour border le canal. Alors, on me dit que, malheureusement, l'UNESCO, qui a classé ce site, est très attaché à des arbres uniques le long du canal. Mais il faut que l'UNESCO change d'avis. Sinon, on va perdre tout ça à nouveau dans un siècle ou deux. C'est vraiment trop bête.
Votre voix est-elle entendue dans ce genre d'instance ?
Aucune idée, je ne sais pas.
Merci Francis Allais, merci aussi à nos amis de France Bleu Hérault à Montpellier, grâce auxquels nous avons pu discuter avec vous. Ainsi s'achève cette interception consacrée au canal du Midi, avec le reportage de Corinne Cutilla, prise de son Marie Le Peintre et Laurent Lucas, mixage Claire Levasseur. Interception est un magazine réalisé par Anne Lureau, avec le concours de Juliette Acus et de Valérie Bourg. Nous vous souhaitons un très bon dimanche